Je suis Joël Mergui, je suis dans Panim El Panim et je vous donne rendez-vous très vite sur ToraBox. ToraBox, je connais bien. Qui ne connaît pas ToraBox? On essaye de vous imiter, on n'y arrive pas.
Comment on fait pour garder cette proximité avec les Juifs de France?
Si on perd la proximité, on n'est plus dans son rôle.
On a l'impression qu'aussi en France, c'est l'histoire qui se répète. On a l'impression qu'on va être obligé de quitter la France parce que on n'a plus d'avenir là-bas.
La communauté a été déçue par le président de la République. C'est mon rôle de le dire au président de la République et de le dire publiquement comme je le dis maintenant, sinon je suis pas dans mon rôle.
Est-ce qu'on peut imaginer un jour que des responsables communautaires appellent à voter pour eux?
J'espère qu'on n'en arrivera pas à ce besoin.
Comment on peut accepter de voir autant de morts déterrés, finir dans des ossuaires, parfois incinérés? On pense que le monde entier a été témoin de la valeur que donne le peuple juif à un corps. Comment on peut accepter cette situation à Paris depuis plus de 20 ans, même plus même?
On doit reconnaître quand on fait des erreurs, mais il faut continuer à avancer.
Salut à tous et bienvenue sur ToraBox. Aujourd'hui, on a le privilège de recevoir Joël Mergui, l'actuel président du Consistoire de Paris. Vous avez été nombreux à nous demander à l'inviter dans Panim El Panim et on va en profiter évidemment pour lui poser toutes les questions que tout le monde se pose. On va parler des institutions, des polémiques, des coulisses. On vous promet vraiment une interview de Joël Mergui comme jamais, sans langue de bois et sans détour. Pensez à vous abonner à la chaîne ToraBox si c'est pas encore fait. Vous êtes de plus en plus nombreux depuis des années à nous suivre et on vous remercie vraiment pour ça. N'oubliez pas que cette émission comme les autres sont disponibles sur Spotify et Apple Podcasts pour l'écouter vraiment partout. On perd plus de temps, c'est parti tout de suite avec Joël Mergui pour ce nouvel épisode de Panim El Panim. Joël Mergui, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à ToraBox.
Merci, très heureux d'être là.
Alors, on est venu d'Israël vous voir, vous rencontrer dans les studios parisiens de ToraBox ici.
En général, c'est moi qui vais en Israël pour vous rencontrer, mais c'est bien que vous veniez d'Israël aussi pour nous voir.
Vous connaissez cette émission, Panim El Panim?
Je la découvre.
Vous la découvrez?
ToraBox, je connais bien. Qui ne connaît pas ToraBox? J'ai même rêvé qu'on soit complètement associé, le consistoire et ToraBox, parce qu'on cible les mêmes personnes. Mais je ne connais pas cette émission.
Sachez juste que c'est un grand honneur pour nous de vous avoir ici. C'est un vrai plaisir, surtout pour des gens de ma génération. On a grandi avec deux grands noms de la communauté. Évidemment, il y avait le Rav Tzitruk Zatzal, qui est juste derrière vous, d'ailleurs, on l'a mis en photo.
Excellent.
Et vous, Joël Mergui, qui êtes président du Consistoire de Paris depuis 20 ans. Je vais vous présenter en quelques mots pour ceux qui connaissent pas votre parcours. Vous êtes né à Meknès, au Maroc. Vous avez grandi là-bas, vous avez fait vos études, puis vous êtes monté à Paris. En 1982, vous décrochez votre doctorat. Vous devenez spécialiste en dermatologie en 1985. En plus de votre carrière, évidemment, je passe un petit peu rapidement, il y a eu plein de choses. En 1990, avec votre papa, vous allez construire l'école Yagel Yaakov à Montrouge. Et en 2006, vous succédez à Moïse Cohen à la présidence du Consistoire de Paris. Ensuite, vous allez passer à la maison mère, le consistoire central, puis revenir à Paris. Aujourd'hui, vous êtes actuellement le président du consistoire de Paris. Ça fait plus de 20 ans que vous accompagnez la vie juive française, souvent dans des moments difficiles, parfois des moments historiques. On va revenir sur les événements majeurs de ces 20 dernières années. On a aussi évidemment beaucoup de questions sur le consistoire, les institutions, comment ça fonctionne. Beaucoup de gens nous ont dit, surtout, t'oublie pas de lui poser ça comme question, etc. Donc, on va profiter de ce format Panim El Panim face à face pour vous les poser directement. Première question, Joël Mergui, vous avez l'habitude en tant que médecin de faire des diagnostics. En tant que l'un des principaux dirigeants de la communauté française, si vous deviez faire un diagnostic sur l'avenir des Juifs en France, sur une échelle de 1 à 10...
L'avenir des Juifs en France ou l'avenir des Juifs de France, c'est deux questions un petit peu différentes. L'avenir des Juifs en France, c'est vrai que à chacune des périodes où il y a eu des drames dans la communauté, on s'est posé cette question, on m'a posé cette question. Je pense qu'il y a une interrogation permanente dans l'esprit de toutes les familles sur cette question de se dire qu'est-ce qu'on va devenir. Mais je crois que dans notre histoire, c'était une interrogation qui est arrivée à de nombreuses reprises. Et par contre, l'avenir des Juifs de France, ils auront un avenir juif plus un avenir juif ici que dans beaucoup de pays du monde. Je pense qu'on a une communauté qui est riche en valeurs, qui est riche en identité, un réveil d'identité encore plus fort à chaque fois qu'il y a des événements comme celui du 7 octobre en Israël. Et donc je pense qu'aucune personne ne se pose de questions sur son avenir en tant que juif. Je crois qu'en tant que juif, on a une communauté qui va avoir un avenir encore plus juif qu'on ne l'aurait jamais imaginé. Et bien entendu, il y a une interrogation, est-ce qu'on va continuer à vivre à Paris, en province, dans certaines banlieues? Il y a des banlieues qui deviennent des territoires perdus de la République dans lesquels on essaye de maintenir une vie juive au maximum. Est-ce qu'on va vivre en Israël? Est-ce qu'on va vivre ailleurs? Je pense que la géographie antisémite et antisioniste du monde nous montre que dans beaucoup de pays, ça se passe mal. Même dans les pays où on pensait que ça allait bien. Donc, on est ici. Aussi longtemps que les Juifs vivent dans une ville, quel que soit le pays dans lequel nous vivons, nous avons besoin de construire un avenir pour nos enfants.
Alors, on va revenir un peu plus tard sur les événements, évidemment, du 7 octobre, l'antisémitisme en France, etc. Mais pour commencer, j'aimerais qu'on repose un peu les bases. Est-ce que vous pouvez expliquer d'une manière assez rapide, c'est quoi le consistoire de Paris? C'est quoi son rôle? Qu'est-ce qu'il fait concrètement au quotidien? Et surtout, à quoi ressemblerait le judaïsme français aujourd'hui s'il n'y avait pas de consistoire?
Alors, c'est un peu la même question. Le consistoire a été fondé par Napoléon en 1808, donc il a un peu plus de 215 ans. Il a pour objectif de la gestion du culte juif en France. On a la responsabilité d'une centaine de synagogues, c'est-à-dire qu'on a le patrimoine juif le plus important d'Europe, c'est-à-dire que ça va de la grande synagogue de la Victoire, à la synagogue des Tournelles, la synagogue de Neuilly, de Sarcelles, de Garges, de Bondy. Enfin, il y a un nombre important de synagogues qui appartiennent au consistoire, donc c'est la responsabilité de les entretenir, de les sécuriser, de les mettre aux normes. C'est une responsabilité énorme d'entretenir la synagogue des Tournelles ou d'entretenir la synagogue de Neuilly. Ensuite, on a la responsabilité effectivement du corps rabbinique en Île-de-France, de ceux qui fréquentent nos synagogues. Nous avons la responsabilité de toutes ces communautés, donc des communautés qui ont des moyens d'exister. Il y a des communautés qui ont de moins en moins de moyens dans ce qu'on appelle les territoires perdus de la République. Notre fierté, c'est d'avoir maintenu une vie juive même dans les communautés où les juifs sont partis, où les juifs ont moins de moyens, où il n'y a pas où il n'y a pas assez de dons. Et donc le consistoire a l'objectif, et c'est une des difficultés que nous avons rencontrées, de compenser ces dons qui n'arrivent pas. Ensuite, elle laisse tous les services religieux qui dépendent du Beit Din. Le Grand Bain de Paris est rattaché au consistoire de Paris, le Dayan Cheli est rattaché au consistoire de Paris. C'est toute la surveillance de la cacheroute, l'abattage rituel. Le plus important abattage rituel d'Europe, c'est également le consistoire de Paris, par le volume de la communauté qui est là, le nombre de restaurants en cachère qui sont sous notre responsabilité, le nombre de commerces cachères, c'est plusieurs centaines en Île-de-France, c'est un réseau très important. Le grand rabbin d'Israël comparait le réseau en Île-de-France à celui de Jérusalem, tellement nous avons la responsabilité morale et religieuse d'un nombre important d'établissements. Nous avons la responsabilité des mariages, le service des mariages. On retrouve parfois des ketubot qui ont un siècle, deux siècles. Quand on veut rechercher l'identité juive de famille, on a un registre de ketubot. Quand on s'est marié au consistoire, on sait que de façon éternelle, on sera retrouvé dans le monde dans lequel nous vivons. C'est important. La Chevra Kadisha, c'est également notre rôle, notre responsabilité de nous battre d'ailleurs pour que les cimetières juifs, les cimetières confessionnels, les carrés confessionnels en Île-de-France puissent se maintenir. Ça n'a pas été toujours un combat facile, mais on arrive à les maintenir. Donc il y a toute la Chevra Kadisha. On a réussi ces dernières années à ce que quand quelqu'un décède, il est quasiment enterré le jour même ou le lendemain, ce qui n'était pas évident il y a une vingtaine d'années. Il peut être amené à enterrer en Israël le lendemain. Donc il y a tous ces services de la Chevra Kadisha qui sont importants. Je pourrais continuer, tous les services des conversions, les services malheureusement des divorces, tous les services religieux qui sont... La communauté juive en Île-de-France ne vit pas que dans des synagogues consistoriales. Elle vit parfois même pas du tout à la synagogue, mais il y a toujours un moment de la vie où on a besoin d'une institution. C'est ce que, si cette institution n'existait pas, il y a beaucoup de choses qui se feraient mal, ou qui se feraient de façon désordonnée et moins organisée. Puis, on a eu, à la fois au consistoire central que j'ai dirigé pendant 13 ans, et au consistoire de Paris, la responsabilité de représenter le culte, c'est-à-dire de défendre le culte, de défendre la sécurité de nos synagogues. Donc c'est également fondamental d'entretenir ces synagogues. Il y a la transmission, le nombre de cours. Alors il y a les cours de Torah Box, mais il y a les cours qui sont donnés par tous les rabbins dans chacune des synagogues, les cours qui sont donnés le Shabbat matin, le Shabbat après-midi.
Puis il y a le Talmud Torah depuis.
Et puis il y a le Talmud Torah qui fait partie. Alors bien entendu, il y a moins d'élèves au Talmud Torah parce que les écoles juives se sont développées.
Mais vous voulez les garder. J'ai lu un article où vous disiez c'était fondamental un point d'honneur pour vous de les garder.
On peut pas se permettre que les enfants qui sont à l'école publique n'est pas une éducation juive.
Alors, j'avais gardé
j'ai pas fini.
Ouais, j'imagine qu'il y a encore plein de choses, mais j'avais gardé cette question pour plus tard, mais je vous la pose maintenant parce que vous parlez de transmission de valeurs de Torah. Est-ce que le fait d'avoir un président du consistoire, un président religieux, ça fait une différence dans la manière de gérer les institutions ou pas?
C'est difficile de dire. Une personne, on peut pas réfléchir comme si on en était une autre. Mmh. Hein, j'ai toujours réfléchi. Je suis fils de rabbin, père de rabbin. Mmh. Donc j'ai cette conscience du rôle du monde rabbinique qui est important. Oui, j'ai toujours réfléchi à la gestion de l'institution en respectant rigoureusement la halakha et en étant pas tenté par les accommodations qui pourraient être contre la halakha et qui pourraient répondre à l'air du temps. Je considère que le judaïsme authentique, le judaïsme de la halakha, est complètement compatible avec la société. Je suis médecin, je vis dans la société, la moitié de mon temps est consacré à ma vie privée de médecin. Il n'y a pas d'incompatibilité entre le respect rigoureux du port de la kippa, de manger kasher, de manger strictement kasher, de respecter le shabbat, de ne pas porter le shabbat. Je parle des choses qui peuvent poser des fois des difficultés avec la halakha. Donc après, on a eu au consistoire des personnalités illustres qui n'étaient pas obligatoirement très pratiquantes, mais qui ont quand même respecté le rôle du grand rabbin de Paris et le rôle du Dayan.
En préparant cette émission, j'ai parlé avec pas mal de responsables communautaires. Il y a une phrase qui revenait tout le temps. Joël Merguis est le premier à monter au front pour défendre nos institutions. Je me rappelle qu'il y a 30 ans, quand on parlait de sujets sensibles comme la shrita, donc l'abattage rituel, la brit mila, la circoncision, on se disait un jour ça va être interdit. Le constat aujourd'hui en 2025, est-ce qu'il y a vraiment un risque, qu'on voit que ça peut arriver dans d'autres pays, qu'on interdise en France un jour l'abattage rituel et la circoncision ?
Dire qu'il n'y a pas de risque, ça serait presque d'inconscience. C'est un combat ardu que j'ai commencé à mener, vous avez parlé en 2006, j'étais président du consistoire de Paris, je prenais la responsabilité de la plus importante shrita, si on peut dire, d'Europe. Et là, commencer les problèmes. J'avais été, à l'époque, je me souviens, convoqué au ministère de l'Intérieur pour exposer. J'avais pris avec moi le grand rabbin Fison, qui est devenu un expert, puisque il était à la fois vétérinaire et grand rabbin. Et donc, nous avons mené ce combat à l'échelon, et il est relayé aujourd'hui par les grands rabbins, par les présidents du consistoire central, par nous-mêmes quand on est interviewé. Je crois que c'est un combat qu'on mène à l'échelon parisienne, à l'échelon française, à l'échelon européenne.
Mais il y a un risque concret ?
Oui, il y a un risque.
Il se passerait quoi si demain on interdisait ? Est-ce qu'on aurait un pouvoir ?
On va se battre pour ne pas en arriver là. Mais c'est vrai que, à la fois sur le biais du bien-être animal et à la fois sur l'assimilation souvent qui est faite entre le kasher et le halal et la volonté de limiter le halal, on est face à un combat de idéologique très difficile à combattre. Mais jusqu'à présent, nous avons réussi à le combattre, en tout cas en France. Pour l'abattage rituel, pour revenir à votre question, comme pour la question des examens, le Shabbat, comme pour toutes les questions difficiles qui peuvent opposer le culte à la laïcité, on a des amis qui essayent de bien se battre à nos côtés, que ce soit dans les députés, dans les sénateurs, dans les élus. Des liens concrets existent entre les présidents de communautés et les élus. J'ai connu Nicolas Sarkozy, par exemple, quand j'ai commencé ma mission. J'étais président des communautés juives des Hauts-de-Seine pendant qu'il était président du Conseil général des Hauts-de-Seine. C'est un moment de proximité qui fait qu'il y a une écoute. Et au moment où ces personnes arrivent au pouvoir, où ils arrivent à être députés, à être sénateurs, ils ont entendu la voix du dirigeant communautaire qu'ils côtoient. Et ça permet effectivement de mieux défendre nos intérêts au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Joël Merguis, on va essayer de découvrir un peu l'homme qui se cache derrière la fonction. Comment et pourquoi on se lance dans une aventure communautaire ?
Oula, c'est une grande question. Je commence à Meknès ou ouais. Je vais plus loin ?
Ah, c'est-à-dire, en fait, la question d'après, c'est est-ce qu'on est engagé ou est-ce qu'on le devient ?
Et moi, j'ai toujours vécu dans une famille engagée. Mes parents étaient directeurs d'école à Meknès. J'ai vu mon père se battre tout le temps pour transmettre le judaïsme. Il était enseignant de Kodesh. Et donc, il a inculqué un nombre impressionnant d'élèves. Je croise encore beaucoup de ces élèves, des élèves de mon père, Zichron Libracha. Peut-être que le moment clé, je veux le dire ici, l'un des moments clés de mon engagement, c'était la guerre du Kippour. J'étais en première à l'IGNO. Et moi, mes parents avaient choisi de m'envoyer à l'IGNO. Mais une grande partie de la famille, de mon père notamment, avait décidé d'aller en Israël. Donc tous mes cousins, qui avaient à peu près mon âge ou un peu plus âgés que moi, se retrouvaient en guerre. Et donc j'étais dans une angoisse permanente de voir mes cousins en guerre, de savoir s'ils allaient s'en sortir. C'était une guerre, on s'en souvient tous, quand on, en tout cas ma génération. J'avais commencé à protéger l'école ce qui devenait le SPCJ après, on se relayait.
À qui on rend hommage d'ailleurs.
Voilà, à qui on rend hommage pour le travail impressionnant qu'ils font et depuis tant d'années. Et donc à ce moment-là, j'ai senti comme une forme d'injustice. J'étais dans le 16e arrondissement, protégé, et mes cousins étaient en train de prendre un risque. Et je crois qu'à ce moment-là, j'ai eu envie de me dire que j'allais consacrer une partie de mon temps au bénévolat dans la communauté. C'était un moyen, disons, de dire je fais pas la guerre, je ne suis pas en Israël, mais je m'engage pour la communauté. Et au fur et à mesure, j'avais décidé à l'époque, c'était un vœu de l'époque, de consacrer la moitié de mon temps à la communauté. Peut-être que 10 ans après, on aurait pu dire je l'ai pas fait. Ben 40 ans après ou 50 ans après, je l'ai fait. Je consacre la moitié de mon temps à la communauté depuis 50 ans. Et c'est ma contribution. Donc je le fais, si on peut dire, comme un engagement rigoureux, militaire, si on peut dire, de se dire, ma part à ça est indispensable, parce que je rappelle que ma fonction et mes fonctions ont toujours été des fonctions bénévoles. Le président du consistoire est un bénévole, les administrateurs du consistoire sont bénévoles, les présidents de communautés que vous côtoyez, qu'il faut remercier, sont des bénévoles. Et donc, j'ai partagé ma vie entre mon métier et ma famille, bien entendu, qui accepte, mon épouse et mes enfants, qui ont accepté de sacrifier une partie du temps que j'aurais pu leur consacrer à la communauté, et puis les responsabilités communautaires que j'ai pris progressivement, en commençant par accompagner mon père à Montrouge dans la création de l'école Yagel Yaakov à Montrouge qui se développe et qui s'agrandit actuellement. Ensuite, en prenant la responsabilité d'être vice-président du consistoire de Paris, puis du consistoire de Paris, puis du consistoire central. Donc oui, il y a une vision, il y a une volonté d'apporter sa contribution, une volonté d'avoir une vision à la fois d'un judaïsme orthodoxe, d'un judaïsme rigoureux, d'un judaïsme sioniste. C'est fait partie des choses qui m'ont été apprises par mes parents et que j'ai continué à dispenser dans une institution comme le consistoire, où les leviers sont là pour essayer de passer des messages, pour essayer de manifester toutes ces choses-là.
Avant de continuer de revenir sur les sujets phares du consistoire, donc on a le président du consistoire chez Torah Box. J'aimerais avoir votre regard, quel regard vous portez sur Torah Box? Torah Box, à la base, c'était un site internet qui donnait des cours de Torah. Aujourd'hui, c'est devenu un peu un acteur majeur aussi du judaïsme français. Quel regard vous avez sur Torah Box?
Je crois que vous faites un travail exceptionnel. Et dès les premiers galas où je venais, je disais, il faudrait qu'on fasse ensemble. On essaye de vous imiter, on n'y arrive pas. Donc, vous avez une concentration, effectivement, pour donner des messages, pour éduquer, transmettre du judaïsme, avec les moyens modernes, avec cette digitalisation, cette numérisation qui permet à tout moment, n'importe où, de pouvoir suivre un cours, de pouvoir poser une question de halakha, d'avoir aussi un abord sympathique et agréable et humoristique. Donc je crois qu'il y a tous ces ingrédients qui font que le réseau s'étend. Vous parliez du grand rabbin Citruc. D'abord, je voudrais rendre hommage au grand rabbin Citruc, parce qu'il a été une figure exceptionnelle du judaïsme français. Il a permis de rapprocher beaucoup de monde du judaïsme. Vous m'avez fait l'amitié des fois de comparer cette période où nous étions très proches. Je reste très proche de toute la famille Citruc, de la rabbinie Citruc que j'encourage et que je vois régulièrement dans les cours qu'elle peut donner, de ses enfants qui continuent sa voie. Mais il reste pour moi une source d'inspiration exceptionnel. Très souvent, j'essaye de mettre dans mes paroles, dans mes actes, dans ma détermination. Alors lui, il était tunisien, donc il était souvent plus souriant que moi. Hein, j'essaie d'avoir la même détermination qu'il avait pour défendre sans complexe le judaïsme. Et je pense que c'est une très grande figure qui a beaucoup apporté. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il a donné envie de l'étude. Et je pense qu'on est dans un monde où on a une communauté juive en France, c'est pour ça que je dis, on est sûr que la majorité de la communauté juive en France, de plus en plus, aura un avenir juif, et vous y apportez votre contribution. Le Torah Box est arrivé à un moment où, effectivement, elle a répondu à un besoin de rendre accessible l'étude en 3 minutes, 10 minutes, 5 minutes, 25 minutes, de rendre accessible les textes, de rendre accessible les liturgies. Donc je pense que ça contribue effectivement à cet élan qui avait été donné par le grand rabbin Citruc et qu'on essaye chacun à sa façon de poursuivre.
Bah, merci beaucoup. J'aimerais qu'on revienne sur le fameux sujet d'actualité, la montée de l'antisémitisme en France.
Depuis 2 ans, je dis, je ne veux pas qu'on dise que les Juifs ont peur. Vous m'avez entendu le dire à plusieurs.
En fait, ça, c'est la prochaine question, parce qu'on se dit à 450 000 Juifs en France, c'est ça. On est la 3e communauté du monde, mais on est aussi celle qui est la plus inquiète. Est-ce que... comment on explique ce paradoxe? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui encore qu'on est fier d'être un juif français, ou cette peur de dire qu'on est juif, elle a pris le dessus?
Alors, j'ai voulu dès le début, dire on n'a pas peur. Maintenant, s'inquiéter, ça ne veut pas dire avoir peur. S'inquiéter, c'est être lucide. Être lucide sur l'avenir. Être lucide sur le fait qu'on a des ennemis. Être lucide sur le fait qu'il y a une partie de la société qui ne nous aime pas. Être lucide sur le fait qu'il faut faire attention, effectivement, quand on est dans certains quartiers, dans la rue, on peut pas se dire on est fier d'être juif, tant pis, venez m'abattre. Non, il y a un moment où il faut avoir lucidité. Mais avoir peur, ça veut dire renoncer à des choses. Et on ne renonce pas. Oui, effectivement, on a entendu qu'il y a des personnes qui ont enlevé la mezouza, qui effectivement faut plus attention quand on met la kippa sur la tête de la cacher. Il y a des modifications d'attitude, mais par rapport à tout ce qu'on a dit sur l'inquiétude, par rapport au fait dans toutes les familles, on se dit quel est notre avenir. La première question qu'on m'avait posée, quel est notre avenir. Cette question, elle est dans toutes les familles. Mais parallèlement, il n'y a pas une soirée où je ne vois pas des juifs heureux. Des juifs danser, des juifs chanter, des juifs faire la fête. Les restaurants sont pleins, les soirées juives sont complètes, les synagogues se remplissent de plus en plus. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est que face à l'adversité devant laquelle nous sommes, les juifs se sont réveillés et ont marqué leur fierté. Et je peux redire qu'un des mots que j'ai répété un nombre incalculable de fois, c'est la fierté de porter ma kippa sur la tête. Dans toutes les circonstances, la fierté de porter un judaïsme, parce que on peut se dire que dans notre histoire, on a vécu tous les drames, on a vécu toutes les haines, mais on n'a jamais haï. On n'a jamais voulu combattre les gens qui nous haïssent, on n'a jamais cédé à cette tentation de devenir des voyous. Nos enfants, ils sont restés dans la ligne de l'éducation qu'on leur a apportée. Je le disais au préfet que je rencontrais au début des années 2000, je disais, ce que je crains, c'est de voir un jour un de nos enfants mal réagir. On est 25 ans après le début des premières intifadas. Nos enfants, ils ont toujours bien réagi. Ça veut dire que l'éducation qu'on leur donne, on peut être fier du message éducatif que donne le judaïsme dans les synagogues, dans la culture, dans l'identité juive. On peut être fier de toutes ces valeurs. Alors malheureusement, elles ont été mal comprises par rapport au fait qu'Israël a dû se défendre contre un ennemi, elles ont été mal comprises. Donc certains ont voulu transformer le peuple juif en un peuple génocidaire, en utilisant des mots catastrophiques, mais tout le monde est lucide, les juifs cherchent à défendre simplement leur position, et les juifs de France continuent à être fiers des valeurs qu'ils portent, à ne pas avoir peur, mais être inquiets pour notre avenir, pour l'avenir de notre société.
Mais ceux qui ont vraiment peur, par exemple, moi, mes parents ont quitté la Tunisie, comme on disait, l'expression connue à l'époque, une main devant, une main derrière, genre sans rien, parce qu'il fallait quitter la Tunisie. C'était pas arrivé au Maroc, mais dans d'autres pays, c'est arrivé. Et on a l'impression que l'histoire se répète. Le 7 octobre, quelques jours avant, on allait célébrer les 50 ans de la guerre de Kippour que vous avez cité. Et donc les anciens de la guerre de Kippour nous racontaient comment ça se passait, qu'ils sont venus à la synagogue chercher les gens pour aller faire la guerre. 3 jours après, le 7 octobre, on a vécu la même situation en Israël, l'armée qui venait dans les synagogues chercher les jeunes pour partir à la guerre. Donc on a l'impression qu'aussi en France, c'est l'histoire qui se répète. On a l'impression qu'on va être obligé de quitter la France parce qu'on n'a plus d'avenir là-bas. Comment on fait pour... Est-ce qu'on a vraiment un discours crédible pour rassurer ces gens-là qui ont peur?
Clairement, on peut voir que certains quartiers, certaines banlieues se sont dépeuplés de leur communauté juive. C'est le consistoire à la responsabilité, effectivement, de maintenir un judaïsme, même quand il reste juste minyan. Mais on voit bien les endroits où les juifs n'ont plus envie de vivre. C'est pas obligatoirement qu'ils ont peur, c'est qu'ils sont lucides sur les risques qu'il peut avoir dans certains quartiers, dans certaines banlieues, dans certaines cités. Mais ce que je dis, c'est que des juifs qui ont une identité forte sont moins inquiets que ceux qui sont éloignés du judaïsme. Je crois que le travail que vous faites, le travail que fait le consistoire, le travail que font les rabbins, le travail que font les associations culturelles, c'est-à-dire quand un juif est dans la communauté, il est dans sa famille juive, dans son identité, je peux vous garantir, pour côtoyer toutes ces catégories de juifs, il est plus tranquille, même s'il sait qu'il y a une inquiétude. Ça ne veut pas dire qu'il va être fou, il ne va pas faire n'importe quoi, mais il va être plus tranquille que le juif qui est isolé, qui a peur de son judaïsme, qui cache son judaïsme. Lui, il est beaucoup plus mal à l'aise. Et aujourd'hui, j'ai vu un retour important de nombre de juifs qui étaient très éloignés, qui se rapprochent de ce que j'ai appelé l'allié intérieur, ou l'allié interne. C'est-à-dire que j'ai dit, parallèlement au mouvement de Aliya qui amène des juifs vers Israël, il y a un mouvement de Aliya très important qui ramène des juifs vers le judaïsme. C'est une forme de prise de conscience de son identité juive. Et je pense que ce mouvement, il est
beaucoup plus... Vous ressentez ça en France, c'est vrai?
Comment?
Vous avez ce ressenti en France qu'il y a un retour? C'est incroyable.
J'avais dit il y a une dizaine d'années, parce que les juifs s'en vont, nous serons encore plus nombreux dans nos synagogues. Et cette phrase, elle ne se dément pas. Ça veut dire, les juifs s'en vont, donc on aurait pu se dire, il va y avoir de moins en moins de juifs. Mais non, ceux qui étaient
ceux qui n'allaient pas venir,
vont venir. Le travail que vous faites, le travail que font toutes les institutions pour essayer de redonner cette fierté, et j'espère y apporter ma petite contribution, cette fierté de se dire, on est juif, on aime nos valeurs, on n'a pas honte de nos valeurs, on ne renonce pas à nos valeurs, eh bien, je pense qu'il fait adhérer un nombre important de personnes qui sont plus éloignées, qui s'en rapprochent.
Très bien. Alors, on va rentrer un peu dans les sujets phares qui concernent le consistoire. J'ai feuilleté le calendrier du consistoire, et il y a quelque chose qui ressort, qui est assez flagrant. Donc, j'ai lu votre édito, les annonces. On voit qu'il y a un énorme manque d'argent dans les institutions aujourd'hui. Comment on en est arrivé là?
Alors,
c'est quoi les raisons?
Elles sont relativement simples. Hein. Elles sont relativement simples. Le consistoire, c'est une énorme structure d'un budget de 26 millions d'euros qui a, comme je vous l'ai dit, 72 bâtiments qui lui appartiennent, donc qu'il doit gérer, qu'il doit entretenir. L'entretien du patrimoine du consistoire, c'est plus d'un million d'euros par an. La sécurité de nos synagogues, c'est plus d'un million d'euros par an. Et on se retrouve avec à la fois beaucoup de juifs qui sont partis en Israël. Vous avez mon exemple. J'ai 4 enfants, j'en ai 3 qui sont en Israël. Donc ça aurait pu être des donateurs du consistoire, des consommateurs de la viande cachère, des dirigeants communautaires.
Donc c'est un manque à gagner. Quoi.
Ils le font en Israël. Donc automatiquement, avec une communauté qui a diminué numériquement, puisque beaucoup de gens sont partis, avec une communauté, avec des structures dans des quartiers difficiles, des communautés dans des banlieues difficiles nous coûtent des moyens, avec un maintien d'un Talmud Torah qui coûte aussi des moyens. Donc effectivement, on s'est retrouvé au fur et à mesure du temps en sachant que le consistoire est une association cultuelle et que la séparation de l'Église et de l'État, les règles juridiques font que c'est interdit d'avoir des subventions publiques. Donc on ne vit qu'avec les dons et avec les contributions de la communauté juive. Et ces contributions, si elles diminuent, il y a eu le Covid. Le Covid, c'était pratiquement près d'un an de fermeture quasi complète de nos synagogues. Donc beaucoup de dons en moins. Une année de dons en moins, c'est énorme. Ça s'est répercuté. L'augmentation de l'énergie, c'est pratiquement 500 000 euros de différence sur un budget de 26 millions d'euros qui s'est retrouvé dans les années qui ont suivi. Ensuite, il y a eu la guerre en Israël. C'est évident que le sioniste que je suis, je n'allais pas dire on ne fait pas de dons à Israël. On a accueilli dans nos synagogues le KKL, le Magen David Adom, le Keren Hayesod et toutes les institutions qui ont eu pour vocation de faire des dons en Israël. Quand le donateur de la synagogue, il a donné 1 000 euros à Israël, il ne va pas donner autant que ce qu'il avait donné l'année d'avant à la synagogue. Donc tous ces facteurs ont fait qu'on se retrouve avec des synagogues qui se sont affaiblies en dons, qui restent quand même avec une vitalité. Et parallèlement, on n'a rien diminué. Malgré la crise, on n'a rien diminué. Les kidouches sont toujours là, les fêtes sont toujours là, les restaurants sont toujours là. L'entretien des synagogues qu'il a fallu faire, tout notre parc synagogal a été rénové, entretenu. Alors oui, ça a créé un déficit dans les moyens qui nous permettent d'activer ces synagogues, de faire vivre les synagogues, de faire vivre l'institution. C'est pour ça qu'on est dans une phase de transformation de l'institution pour mettre du numérique, pour revoir la politique de la relation avec les communautés pour que les donateurs soient plus au rendez-vous, pour mieux faire savoir tout ce que nous faisons et pour pouvoir réussir enfin à avoir un équilibre financier. le consistoire n'a jamais eu pour vocation de fabriquer de l'argent. Le consistoire, c'est vous donnez 1000, on utilise 1000 pour faire ce qu'il faut pour la communauté. Et quand vous donnez 900 et qu'il faut faire avec 1000, ben il faut trouver les 100 qui manquent. Et ben c'est tout le travail que nous faisons avec notre équipe.
Alors justement, un des sujets sensibles, c'est le problème des produits cachers. Alors pourquoi, moi c'est une question simple, pourquoi à chaque fois qu'on parle du prix de cachers, on le voit aussi souvent dans les réseaux sociaux, c'est toujours le consistoire qui est montré du doigt en disant ça coûte du consistoire, que ça coûte cher. Moi j'ai vu, franchement, j'ai repris des notes que a préparé d'ailleurs Madame Sarah Louche, qui prépare avec moi cette émission, une interview où vous avez dit par exemple sur la viande, la redevance sur la viande est de 1,66€ par kilo. Depuis 15 ans ça n'a pas bougé. Sur les autres produits comme le vin, etc., la redevance elle est entre 19 centimes et 59 centimes. C'est des vrais chiffres déjà ça?
Oui, c'est des vrais chiffres.
La question c'est sur un produit, donc pourquoi dans ce cas-là, quand je vais acheter un kilo de viande, je ne sais pas comment ça coûte aujourd'hui, 15€, 16€, pourquoi on montre du doigt le consistoire en disant c'est à cause d'eux que ça coûte cher?
Il faut toujours trouver un responsable.
Hein. Non, mais encore. Ouais.
Alors, je vais vous dire, j'ai pris l'habitude. Souvent, on me dit on ne sait pas tout ce que vous faites. J'ai pris l'habitude depuis 20 ans, j'explique, je refais, vous citez des interviews, mais la communauté, elle a envie d'entendre ce qu'elle a envie d'entendre. Alors, effectivement, c'est nous qui avons la responsabilité de la Shrita, c'est nous qui avons la responsabilité de défendre la Shrita, comme vous venez de le dire. Oui, c'est souvent beaucoup moins important qu'on l'imagine. Alors, les prix de la viande sont chers, mais il y a à la fois, effectivement, la redevance qui permet. Il faut savoir qu'est-ce qu'on fait avec cette redevance. Hein. Ça permet d'avoir le chourette, le bodec, d'avoir tout le circuit de surveillance des Dayanim. Donc, la marge qui reste pour l'institution, pour faire vivre les services religieux, elle est très faible par rapport à cela.
Pourquoi? Alors c'est qui le responsable? Pourquoi les prix augmentent tout le temps et pourquoi le cachère coûte aussi cher? Sans faire des jeux.
Bon, le prix de la viande augmente aussi. Moi, je vais pas donner des raisons. Des
non, en fait, la raison...
Non, ce que vous dites, c'est effectivement, on va beaucoup moins voir, mais c'est vrai dans tout, sur les réseaux sociaux, bravo le consistoire d'avoir réussi ça, parce que il y a quand même tous les jours des services qui sont à la disposition des communautés. Quand on arrive et qu'on crée un centre, qu'on fait vivre une synagogue, vous savez, quand on fait vivre dans la synagogue de Sarcelles, le manque de dons fait que le consistoire contribue à ça. Est-ce que quelqu'un va venir nous dire bravo, ça paraît normal, tout ce que nous faisons ça paraît normal? Quand malheureusement il y a des décès et qu'on arrive à enterrer le lendemain, c'était pas vrai il y a 20 ans. Des fois, on attendait 2 jours, 3 jours. Le consistoire réussit à accélérer tout ça. On va pas venir nous dire merci et on cherche pas ce qu'on nous dise merci. Mais c'est vrai que c'est parfois injuste de pointer du doigt le consistoire sur tous les dysfonctionnements. Ça ne veut pas dire que tout fonctionne bien. Je serais un mauvais président si je pensais que tout ce que nous faisons se passe bien. Il y a des améliorations, elles sont en cours. Il faut savoir aussi qu'avec les moyens financiers, on fait ce qu'on peut. On peut pas avoir 18 personnes qui répondent au téléphone parce que, effectivement, on utilise à bon escient les moyens qui nous sont donnés, mais on essaye d'avoir une réactivité surtout, et cette réactivité va continuer à augmenter avec les modifications que nous sommes en train de faire dans nos équipes. Mais c'est vrai que c'est souvent vécu comme injuste de pointer du doigt quand on voit qu'on a le plus grand.
Alors la question c'est, vous avez dit vous-même par exemple, on appelle tous les acteurs de la filière cachère à faire des efforts pour maîtriser les prix. Est-ce que le consistoire n'a pas une sorte de pouvoir de boycott en disant on impose des choses pour pas que les choses elles exagèrent?
Non. On est dans un monde de libre concurrence. Il m'arrive de temps en temps, il m'est arrivé à plusieurs reprises avant Pessah, dans des moments clés, de dire aux commerçants de faire attention, mais on a c'est la concurrence qui joue et il y a de plus en plus de concurrence. C'est vrai que les réseaux de restauration cachère et de d'épicerie cachère se sont développés, donc il y a plus de concurrence et c'est bien qu'il y ait plus de concurrence, parce que ça permet effectivement de limiter les prix. C'est vrai que les prix restent chers. C'est pour ça, par exemple, on a créé la liste des produits cachers qui est maîtrisée parfaitement par le Grand Rabbin Guggenheim et par l'ensemble des acteurs de cette liste, qui permet effectivement de valider des produits sans qu'ils aient besoin d'avoir le cachet Beit Din de Paris, et qui permet de les trouver dans n'importe quelle grande surface, toute une liste de produits qui sont à la disposition de tout le monde. Ça, c'est un acte du consistoire. Nous avons 2 ou 3 personnes qui travaillent dessus toute la journée pour vérifier que des produits sont cachers. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est que les redevances, les redevances qui sont payées pour permettre de payer le chouchette, le machguir, on les a limitées, je le dis depuis 15 ans, alors que tout a augmenté, les salaires ont augmenté, tout a augmenté, on essaie de limiter au maximum et de se contenter de, on pourrait augmenter encore un petit peu ça. On l'a pas fait pour justement respecter le consommateur.
C'est quoi le niveau de la cache-route aujourd'hui au consistoire? Pour citer Benny Cohen qui avait participé à cette émission, il nous avait dit à l'époque, les gens reconnaissent par exemple le guet, donc le divorce juif donné par le consistoire, les gens reconnaissent la conversion donnée par le consistoire, mais dès qu'on arrive à la cache-route, alors là non, je mange pas consistoire. Comment vous expliquez ces...
C'est très injuste. C'est très injuste. La cache-route du consistoire est d'une rigueur absolue. Que ce soit le grand Ben Gounaïm ou le Daïn Cheli, sont d'une rigueur absolue avec notre Chacho Khatim. La shrita qui est faite, et je ne vais pas rentrer dans des détails très importants, mais quand on prend un nombre de bêtes, quand ce sont les Chochatim du consistoire qui abattent, on a 20 bêtes cachères sur 100 bêtes, 20%, 20-25%, ce qui est très faible. Je ne vais pas rentrer dans les concurrences qui peuvent exister, mais... quand on mange kasher bedin, on mange avec beaucoup de rigueur. Comme d'ailleurs pour tout ce qui est fait, vous l'avez cité, et qui est reconnu par notamment en Israël et dans tous les batedines du monde, la rigueur du bedin de Paris.
Et j'aimerais revenir sur un sujet, quand on parlait d'antisémitisme, etc. Bientôt, il y a des élections en France, des élections municipales, dans un an, des élections présidentielles. Il y a une question qui revient souvent, qu'on a dû vous poser souvent, je vous la pose aujourd'hui. On a grandi, nous, avec une idée très claire. Il y a un parti politique considéré comme toxique pour les Juifs. À l'époque, c'est le Front National de Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, certains disent que le paysage a changé, que le Rassemblement National est un des seuls à défendre les Juifs et Israël avec conviction. Alors je vous pose la question, est-ce qu'on peut imaginer un jour que des responsables communautaires appellent à voter pour eux?
J'espère qu'on n'en arrivera pas à ce besoin. Je crois qu'on a une histoire, qu'on connaît l'histoire malheureusement de l'extrême droite. Aussi, malheureusement dans leur volonté d'exclure, il est clair que aujourd'hui dans l'échelle des partis politiques, on a un plus grand problème actuel avec la France insoumise et avec l'extrême gauche, avec sa haine d'Israël qui est décomplexée, cet antisémitisme qui est décomplexé, qu'avec le Front National. Je me le dis ponctuellement. Maintenant, on n'est pas arrivé au moment, et je pense qu'il y a un consensus des responsables de la communauté juive pour appeler à voter pour le Front National aujourd'hui, pour le Rassemblement National.
Ok. Joël Mergui, j'aimerais qu'on aborde un sujet, on va dire un sujet un peu qui fâche. Vous en avez parlé dans l'introduction. J'ai regardé le calendrier du consistoire. J'ai vu qu'il y avait des sommes vraiment astronomiques engagées. Donc 12 millions, je donne des chiffres qui sont écrits dans le livre, 12 millions d'euros pour les Talmud Torah, 12 millions pour la sécurité, 22 millions pour aider les communautés en difficulté, 25 millions pour l'entretien du patrimoine, etc. Donc on voit vraiment tous les engagements financiers.
C'est sur 20 ans, ça. Hein.
Sur 20 ans.
C'est sûr. On a créé un bilan du consistoire 2006 quand je suis arrivé. Donc c'est facile, à partir du moment où on avait créé le bilan, de pouvoir chiffrer. Donc effectivement, tous ces chiffres, c'est pour dire tout l'investissement qui a été fait en 20 ans dans ces différents domaines.
Donc sur les 20 dernières années.
Voilà.
Très bien. Et en fait, j'ai eu beau chercher de la première à la dernière page, j'ai vu aucune mention concernant la saturation des cimetières parisiens. J'explique le problème rapidement, après je vous laisse répondre. Depuis près de 20 ans, on déterre des centaines de juifs dans le silence le plus complet. Je le dénonce malgré l'immense respect sincère que j'ai envers vous, envers Serge Benaïm qui fait un travail extraordinaire. On sait que vous faites un travail en sous-marin pour aider énormément de familles au moment du deuil. Mais concrètement, comment on peut accepter, vous êtes dirigeant de ces institutions depuis plus de 20 ans, comment on peut accepter de voir autant de morts déterrés finir dans des ossuaires, parfois incinérés? Comment on peut tolérer cette situation en tant que juif? On pense que le monde entier a été témoin de la valeur que donne le peuple juif à un corps, ce qu'il est capable de donner pour récupérer seulement un seul corps. Je ne vais pas faire de comparaison avec ce qui se passe en Israël, mais comment on peut accepter cette situation à Paris depuis plus de 20 ans, même plus même?
Alors, pardon, là aussi, il ne faut pas qu'on aille sur des faux clichés. Hein. Je veux d'abord dire que j'ai gardé ce ruban jaune parce que, effectivement, tant que les corps ne sont pas revenus, je considère que dans notre tradition, c'est très important de le garder. Deuxièmement, ça a été un de mes combats. Depuis que je suis là, ça a été un de mes combats. Premièrement, de maintenir des carrés juifs dans les cimetières parisiens. C'est un combat qu'on a gagné. puisque on a maintenu les carrés juifs, alors qu'il faut savoir qu'il y a 20 ans, il y avait une volonté de rendre, du fait de la laïcité, de rendre tous les carrés mixtes. C'est-à-dire on pouvait se retrouver avec plus de lois qui permettent de maintenir les carrés juifs. Deuxièmement, effectivement,
je précise que au niveau de la loi, un non juif peut être enterré dans un carré juif.
Oui.
Et une jurisprudence qui a été faite.
Pour l'instant, on a la tolérance l'accord des cimetières parisiens, que ce soit celui de Bagneux, celui de Père Lachaise, celui tous les cimetières parisiens, on a maintenu des carrés juifs. Maintenant, les carrés, ils arrivent à saturation. L'autre chose qu'on a obtenue et qui est fondamentale, c'est que lorsque une concession arrive à terme, elle peut être renouvelée par la famille, mais si elle n'est pas renouvelée, on a obtenu le fait que les corps sont repris dans des ossuaires, et que les ossuaires qu'on a réussi à obtenir de la ville de Paris, qu'un ossuaire soit créé à Thiers, et que les conditions halakhiques dans lesquelles sont mis les corps dans des ossuaires sont quasiment équivalentes à celles de tombes. C'est-à-dire qu'ils sont mis dans des conditions, des reliquaires, où on retrouve le nom, il y a une traçabilité, ils sont mis dans des cases. Donc, ensuite, il n'y a plus de place. Quand il n'y a plus de place, c'est pour ça qu'on encourage la communauté à aller à Thiers, où il y a encore des carrés juifs suffisamment grands. Alors, quand les gens veulent rester sur le même cimetière, effectivement, quand au cimetière du Père Lachaise, on a effectivement la possibilité d'avoir des carrés qui sont en train de devenir complètement confessionnels juifs. Donc il y a tout un travail qui est fait pour maintenir les règles religieuses. Maintenant, ce ne sont pas des cimetières privés, donc les concessions, elles se terminent. Et donc j'encourage les personnes qui m'écoutent à surveiller la fin de leurs concessions pour pouvoir les renouveler. Et ça, c'est essentiel. Ça fait partie... Là, par exemple, on a un cas à Boulogne, où on a détecté une concession qui se termine, on n'a pas le droit juridiquement, nous, en tant qu'institution, il n'y a que les ayants droit qui ont le droit de toucher à la concession. C'est-à-dire, il faut que ce soit quelqu'un de la famille, le consistoire ne peut pas intervenir comme ayant droit pour pouvoir dire on ne touche pas à cette concession.
C'est-à-dire qu'il n'y a que la famille qui peuvent faire ça. Mais
on essaye de faire évoluer la loi, c'est un travail énorme. On a déjà fait évoluer les lois sur beaucoup de choses.
Alors on va revenir justement sur ce que vous avez pu faire évoluer, le travail que vous avez pu faire avancer. Mais une question simple, pourquoi ne pas créer un cimetière depuis tant d'années, un cimetière juif, même si ce n'est pas Paris même, un peu excentré, pour pouvoir régler ce problème, donner la possibilité à des familles d'enterrer leurs proches sans risque qu'ils soient déterrés.
Ça fait partie des choses qui ont été étudiées, mais pour l'instant, ça n'est pas le cas.
Non, mais là, j'incite un peu, parce que pourquoi depuis tant d'années que ce problème, voilà, vous parlez du cimetière de Thiers. En 2024, il y avait une grande affiche qu'on a diffusée d'ailleurs sur Torahbox, on voit des dizaines, voire des centaines de noms. On a la même affiche qui a été diffusée en 2025, de tombes qui vont être déterrées. Donc on parle du cimetière de Thiers que vous avez cité. Oui. Comment on fait pour lutter contre ça? Et pourquoi, par exemple, on va à Bobigny, on a un cimetière? Parce que je sais que quand je parle de ce sujet, on parle de la loi de la laïcité, etc. La séparation, qu'on peut pas créer un cimetière. Pourtant, les musulmans l'ont fait. Vous allez à Bobigny, vous avez un cimetière entièrement musulman. Pourquoi la communauté juive, avec toutes les relations qu'elle a, toute l'influence qu'elle peut avoir, n'a pas réussi depuis tant d'années à faire ce cimetière-là?
On l'a pas fait. On a un cimetière complètement confessionnel à Versailles, effectivement. Mais la question de la création d'un cimetière confessionnel ne s'est pas pour l'instant posée.
Est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire on n'a peut-être pas le temps de s'occuper de morts? On a assez de...
Non, c'est pas qu'on n'a pas le temps. On s'est beaucoup occupé. On a réussi.
Alors c'est quoi qui a été vigilant? Parce que le Conseil de Paris, il y a 8 ans, sûrement grâce à votre travail, avait voté une loi qui interdit de toucher aux sépultures des descendants ayant vécu l'occupation. Oui. D'accord? Et justement, depuis cette décision du Conseil de Paris, combien de juifs ont pu être sauvés grâce à cette décision, par exemple?
Je saurais pas vous dire précisément. Il faudrait que vous m'auriez posé la question avant. J'aurais apporté des chiffres précis.
Non, je répète que c'est bienveillant ce que je dis. Joël Mergui, il y a aucune notion de piège.
La question de la création d'un cimetière confessionnel juif s'est parfois posée. Je pense qu'on s'est beaucoup concentré à maintenir les carrés juifs dans les carrés confessionnels dans les cimetières. On a beaucoup travaillé sur l'ossuaire de Thiers. Qui puisse permettre d'avoir des reliquaires qui soient conformes. On a beaucoup travaillé avec le Dayanim, avec le Grand Rabbin de Paris. Donc je crois qu'on a essayé d'évoluer. On a aussi beaucoup travaillé sur les délais d'enterrement. On a aussi beaucoup travaillé avec la ville de Paris pour l'ouverture du cimetière, des cimetières parisiens le dimanche. Ce qui était un challenge qu'on a réussi aussi il y a 5 ou 6 ans. Donc, il y a des choses sur lesquelles on a avancé. La création d'un cimetière confessionnel, purement confessionnel juif, ça peut être quelque chose qui peut être réétudié.
On a vécu beaucoup d'événements majeurs pendant ces 20 dernières années, notamment le Covid. La première question, c'est comment allez-vous? Parce qu'on sait que vous avez été touché très, très fortement par le Covid. Comment ça va depuis? Comment ça s'est passé à ce moment-là? Est-ce que vous voulez nous raconter un petit peu? Et ensuite, on parlera dans le détail comment vous avez pu gérer, malgré ce Covid, comment vous avez pu gérer cette crise majeure.
C'est des choses qu'on oublie. Oui, mon épouse et moi avons été affectés en même temps, gravement. Oui, c'est un épisode difficile pour tous ceux qui ont été affectés. Et c'est un épisode où on ressort à ce moment-là, après ça passe, avec une forme de culpabilité quand on voit ceux qui, comme nous, étaient vaillants et qui sont partis dans ces quelques mois dramatiques du Covid. Et parallèlement, bon, heureusement que j'ai pu en sortir relativement vite. J'étais très loin en réa, mais j'ai pu en sortir suffisamment vite pour pouvoir continuer tout le travail de gestion de la communauté juive en plein Covid. Toutes les règles que nous avons mises en place.
Comment on gère une crise aussi exceptionnelle que celle-là, quoi? Les fermetures des synagogues.
Je crois qu'il y a toute une équipe, il y a une réflexion. On était en contact avec la MIF, avec les ministères, on n'était pas seul. Le monde entier était en gestion. C'est vrai que la rigueur qu'il fallait obtenir dans les synagogues a été compliquée. Les décisions qu'il fallait obtenir d'ouvrir, de fermer, la décision de ne pas rouvrir à des moments comme Shavuot, je me rappelle, c'était une décision compliquée parce que certains voulaient rouvrir. On savait qu'il y avait une question de piquoir des fèches. Donc il y a eu toute cette problématique qui s'est posée. Bon, on a géré une crise. Ça a été une crise très difficile à gérer, très difficile humainement, très difficile aussi dans la conscience, parce que le nombre de personnes qui partaient, qui est très difficile de parler de la Chevra Kadisha, le travail qui a été fait à ce moment-là par la Chevra Kadisha a été facile. énorme, la relation avec Israël, le fait que des familles aient pu envoyer des corps en Israël sans pouvoir les accompagner dans certains cas, ça a été des moments humainement très complexes, heureusement qu'on oublie, mais ça reste gravé dans une conscience. Et aussi, vous parliez tout à l'heure dans l'importance d'une institution. Parce que tout le monde attendait ce qu'on décidait, et il y avait une cohérence entre le Consistoire de Paris et le Consistoire central, puisque j'en étais la président des deux, et une cohérence de la réflexion avec les communautés. Tout le monde, c'était difficile que tout le monde suive la même règle. Hein, parce qu'il y avait, vous vous souvenez, il y avait des personnes qui voulaient ouvrir les synagogues quand même. Il y a eu des...
J'étais pas en France, mais j'imagine, ouais.
Voilà. Mais la force de l'institution, dans ces moments-là, dans les moments de crise, quand tout fonctionne, on se rend pas compte de l'importance d'une institution.
C'est ça.
Tout à l'heure,
c'est
vrai. C'est dans les moments de crise qu'on se rend compte que par exemple, il y a une crise financière, on se rend compte qu'on a soutenu 40 communautés, sur les 80 communautés, 40 communautés qui ont pas assez de moyens et qu'on soutient. Donc, il y a une crise financière, mais les communautés qu'on soutient, elles continuent à vivre grâce à ça. Continuent à avoir leur rabbin, leur électricité, leur kidouche, etc. Donc, c'est dans les moments de crise, la crise du Covid a été une de ces moments de crise, dans la crise de l'antisémitisme, de la sécurité, où il faut parler d'une seule voix pour obtenir le maximum de moyens pour protéger nos synagogues, est important.
On a reçu le Rav Betzalel Levi, qui est le responsable des divorces au consistoire, qui fait un travail extraordinaire et qui en rend hommage. Comment, parce qu'on parlait de votre façon de défendre les institutions, comment vous faites quand il y a des crises majeures qui passent même dans les journaux? Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là quand vous savez que vous avez cette responsabilité d'aller devant tout le monde pour défendre les institutions du consistoire? Comment vous fonctionnez?
Comme pour toutes les défenses, hein, j'ai dit une phrase dans une des élections, j'ai dit j'ai appris à me battre pour les juifs, jamais contre les juifs. Alors, et ça c'est quelque chose que m'a appris mon père. C'est vrai que vous m'aurez vu rarement attaquer ou critiquer un coreligionnaire, même si parfois il ne dit pas les bonnes choses. Et c'est parfois un exercice difficile. Et parfois un exercice difficile de se taire quand on est critiqué. Et parfois il faut savoir se taire.
Ça dépend. Et comment vous faites? Parce que les critiques, en tant que responsable, on en a toujours. Mais quand on est président du consistoire et d'être beaucoup plus forte, comment vous gérez ça? Comment vous les encaissez?
Voilà, on me pose des questions, je réponds. On essaie de donner des arguments. On essaie de répondre à bon escient. Je crois que on, comme je l'ai dit, on n'est pas. J'ai une assemblée générale tous les ans dans laquelle on convoque 25 000 personnes. Il y a 100 personnes qui viennent. C'est pas en général les plus bienveillants qui viennent. On leur répond et c'est un exercice important. C'est ça la démocratie. Il faut savoir. Il faut que vos auditeurs sachent que le consistoire présente ses comptes par un commissaire aux comptes et en assemblée générale tous les ans. C'est pas le cas de toutes les associations qui sont soutenues par tout le monde. Et quand on convoque une assemblée générale, on envoie une convocation à 25 000 personnes. Des élections, on envoie à 25 000 personnes la possibilité de voter. Quand viennent les personnes qui ont des questions à nous poser. Donc on est en permanence à répondre aux questions. La critique n'est pas toujours négative. La critique permet aussi de clarifier des choses. Après, voilà, on est. Il y a les critiques internes qui sont internes à la commune. Vous parlez de la cache-route, parler de. On a appelé le consistoire, il nous a pas répondu. C'est trop cher de se marier dans telle synagogue. Tout ça, ça fait partie des choses sur lesquelles on doit expliquer qu'on entretient un patrimoine, que on se retrouve pas avec une synagogue de la Victoire sans rien faire toute l'année. Et parallèlement, il y a la défense de l'institution. Et la défense du judaïsme par rapport au pouvoir public, par rapport à la société. Et bon, ben voilà, c'est notre rôle, notre responsabilité de défendre l'ensemble de ce que nous représentons pour pouvoir faire avancer notre institution. Mais quand on, pour l'identité juive, pour le soutien à Israël, pour le soutien à l'institution que j'ai la responsabilité de présider, quand on est sûr de ce qu'on fait et qu'on essaie de le faire, les Shem Shamaïm, de le faire avec conviction, on doit reconnaître quand on fait des erreurs, mais il faut continuer à avancer. Il faut continuer à avancer. C'est une très belle institution. C'est une très belle institution avec beaucoup. Vous avez parlé du Rav Betzalel Levi qui fait un travail exceptionnel. Dans chacun des services, il y a des personnes qui sont très dévouées. Alors j'ai parlé des bénévoles, mais tous les salariés ont aussi une part bénévole dans leur engagement. C'est des gens qui sont engagés, ils font pas un travail juste pour faire un travail, ils font un travail de avec conviction. Et je pense qu'on défend. On défend un judaïsme fort. J'ai la chance de pouvoir tourner par mes responsabilités en Europe. Je peux être fier de ce que fait le consistoire de Paris, malgré les difficultés qu'il connaît. Et il connaît des difficultés justement parce qu'il fait beaucoup de choses. On aurait pu facilement parler de difficultés financières. On aurait pu se dire, on va fermer des synagogues là où elles ne sont plus rentables. On va fermer des Talmudé Torah parce qu'elles sont plus rentables. On va mettre moins de sécurité. On va arrêter les kidouches dans les synagogues. On a essayé de ne renoncer à rien. De maintenir le maximum de choses en faisant des réglages, et c'est pas simple, mais on essaye d'y arriver.
Joël Mergui, on se connaît pas personnellement, mais en tout cas, moi, j'ai énormément de souvenirs avec vous, même dans ma jeunesse. Vous êtes ce que j'appelle vraiment un homme du peuple, quelqu'un qui est proche du peuple. Vous n'êtes pas ce qu'on appelle un juif de cour, où souvent on critique un peu les dirigeants communautaires en disant, bah, eux, ils appartiennent à cette catégorie, ils s'en foutent un peu, ils n'ont pas de contact avec nous. Moi, je vous ai beaucoup, beaucoup observé depuis des années, soit dans les voyages, dans les moments de jeunesse, etc. Comment on fait pour garder cette proximité avec les juifs de France?
Si on perd la proximité, on n'est plus dans son rôle. Je l'ai dit souvent, j'ai besoin, le samedi, d'aller dans le kidouche, parler avec les gens. J'ai besoin, d'aller dans les soirées. Plus on est en contact avec les gens, plus on colle avec ce qu'ils pensent. Je ne peux pas parler si je ne me dis pas que la majorité de ceux qui m'entendent, ou que je représente, ne pensent pas comme moi. Alors, le rôle d'un dirigeant, c'est parfois aussi d'orienter la pensée de ceux qu'il dirige. Si je suis responsable d'une institution, si je pense que la communauté, par exemple, majoritairement pense que tout le monde est contre nous, je dois dire tout le monde n'est pas contre nous. Et même si quelque part on va me huer, il y a un moment on va comprendre que j'ai peut-être un peu raison. Mais on peut pas aller contre le vent et contre l'avis de la communauté. C'est important aujourd'hui. La communauté majoritairement se dit que la France insoumise et il y a pas besoin est antisémite et antisioniste. Ben c'est mon rôle de le dire. La communauté a été déçue par le président de la République. C'est mon rôle de le dire au président de la République et de le dire publiquement comme je le dis maintenant. Sinon je suis pas dans mon rôle. Après on m'a posé la question avant-hier. Est-ce que les Juifs vont partir? Je dis c'est la responsabilité de la France de savoir si elle va faire en sorte qu'on reste ou qu'on parte. Donc je crois que c'est notre responsabilité de dire les choses et de rester effectivement. Alors de rester proche du peuple, je crois que c'est aussi des caractéristiques de vie personnelle. Ça a été l'engagement de mes parents, de ma famille. C'est une nature. Je suis médecin aussi. Ça doit peut-être contribuer. Je vis ma vie au service des autres, à écouter l'autre. Je crois qu'on c'est une nature. J'aime le contact humain. J'aime être avec les gens. J'aime les écouter. J'aime essayer de les servir. Et sinon, je ne ferai pas ce que je fais.
On arrive vers la fin de l'émission. Vous êtes donc à la tête de ces institutions depuis 20 ans. Si je vous demandais, c'était quoi votre plus belle réussite et votre plus gros échec, ça serait quoi ?
Je suis à chaque fois très fier d'arriver à Montrouge et de voir l'école que j'ai créée avec mon père, Zichrono Livracha, et de voir qu'elle continue à se développer, bien que je n'ai plus aucun rôle avec les autres, et de voir ce que sont devenus les enfants qui ont aujourd'hui, les premiers enfants qui ont aujourd'hui 40 ans, ce qu'ils sont devenus dans leur diversité. C'est effectivement pour moi un élément majeur. Et je suis très fier d'avoir utilisé l'expérience que j'ai avec mon père de la construction de cette école pour pouvoir avoir construit le Centre européen du judaïsme. C'était cette expérience qui m'a donné le courage contre vents et marées. À un moment, on me disait, il est fou, on n'y arrivera jamais, on pourra pas, c'est pas le moment de construire, d'avoir construit un centre et de le voir se remplir. Il est très loin d'atteindre les objectifs qu'on avait donnés. Je veux rester avec beaucoup d'humilité, mais il est là. Il est là, il est en train de se développer. Oui, je peux être fier de ça et fier de me dire que dans ce que j'ai fait pour la communauté, je l'ai fait en ayant consacré tout le temps nécessaire. Bon, il était difficile de consacrer plus de temps, donc oui, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Les échecs, ils sont nombreux. Tout ce que je n'ai pas réussi à faire, il y a beaucoup de choses. Vous m'avez parlé d'un cimetière confessionnel. S'il y a la possibilité de faire un cimetière confessionnel et qu'on l'a pas fait, c'est dommage, on a pris du retard. Parfois, on a envie de réussir des choses et on les réussit pas toujours. C'est toujours une frustration, même si elle a des raisons.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les 20 prochaines années ?
De m'occuper davantage de mon épouse, de mes enfants et de mes petits-enfants.
C'est beau. Ah, bravo. Et Joël Mergui, je voudrais sincèrement vous remercier d'avoir joué les jeux, d'avoir été franc avec nous. Merci d'être venu sur Torah Box. Vous êtes invité à revenir quand vous voulez. On vous remercie à vous d'avoir suivi cette émission. On espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et on vous dit à très bientôt sur Torah Box. Merci beaucoup.